Bonsoir à toutes et à tous, aujourd'hui nous retrouvons Marthe et Luc, le duo en bonne compagnie et leur participation à la quinzaine sur les droits des femmes, féminin pluriel, avec la suite et fin des collectifs de femmes hors du commun. Marthe et Luc, c'est à vous.
Les peines sardines, la belle grève des femmes. Alors là on doit vous dire que c'est nos préférés, on les adore. Franchement c'est des femmes qui ont eu un courage et en plus on fête cette année le centenaire de leur combat. Donc, bravo les peines sardines. Alors justement, ça se passe, ça commence le vendredi 21 novembre 1924. Vendredi 21 novembre 1924.
À Douarnenez, au bout de la Bretagne.
Usine de conserverie de sardines.
Ce jour-là, trois ouvrières épuisées vont voir le contremaître pour demander, négocier un peu de repos et une augmentation de salaire.
Alors, il faut rappeler leurs conditions de travail. Hein. De 10 à 17 heures par jour, toujours debout, dans des hangars humides et mal chauffés.
Le contremaître ne les entend pas, refuse de les écouter.
Ces femmes sortent dans la rue et en colère font le tour des usines en criant « Ça suffit! On ne peut plus accepter ça !»
Et cette grève va se répandre comme une traînée de poudre en grève générale. Les hommes sont marins-pêcheurs et les femmes travaillent dans les conserveries. À cette période, la pêche des sardines est abondante. Et la sardine n'attend pas. C'est un petit poisson fragile.
Les bateaux ne sont pas équipés de réfrigérateurs, ni les sardineries de chambres froides. Dès qu'arrive la sardine, il faut lui retirer la tête et les entrailles.
Et la faire frire dans l'huile.
Et la mettre en boîte.
Il n'y a pas d'heure quand les bateaux arrivent, les ouvrières sont appelées au milieu de la nuit pour gagner leur poste de travail.
Douarnenez, à l'époque, compte 2200 employés répartis dans une vingtaine d'usines. Vous vous doutez bien que la grande majorité, ce sont des femmes. Le travail est dur et mal payé. Les patrons des conserveries de poissons ont obtenu des dérogations sur les lois sociales, notamment la loi de 1919 des 8 heures journalières et le travail de nuit. Eh bien, cette loi-là ne s'applique pas dans ces conserveries. Les ouvrières des sardineries continuent à travailler 10 heures par jour et parfois jusqu'à 72 heures d'affilée. En effet, quand un chargement de sardines fraîchement pêchées arrive, il doit être traité au plus vite.
De jour comme de nuit, les sardinières sont rappelées à travers la ville pour rejoindre les conserveries. Les heures passées à l'usine dans l'attente du poisson ne sont pas payées. Les heures supplémentaires ne sont pas majorées. Les heures de travail de nuit, en principe interdites pour les femmes, non plus.
Elles commencent à travailler très jeunes, en dépit des lois interdisant le travail des enfants de moins de 12 ans. Alors, il faut se mettre dans l'époque. Hein. Il y avait une loi qui interdisait le travail aux enfants de 12 ans. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que des enfants qui avaient plus de 12 ans pouvaient travailler. Mais là, certaines fillettes dès l'âge de 8 ans, sont mobilisées tant la misère des familles est grande. Les ouvrières, qu'elles aient 12 ou 80 ans, si jamais certaines arrivent à cet âge-là, gagnent 16 sous de l'heure. Bon, alors on a fait du super calcul pour vous donner une idée à quoi ça peut correspondre aujourd'hui. D'abord, il faut savoir que ces femmes sont payées au rendement. Elles sont payées aux milliers de poissons. Donc, ce n'est pas un taux horaire, c'est un taux à la tâche. Et si on traduit, ça fait un salaire de mensuel entre 50 et 190 euros par mois. Les sardinières sont réputées pour être les ouvrières les moins bien payées de France.
Tiens, pourquoi les appelait-on les peines sardines ?
En fait, c'est un nom qui remonte au XVIIIe siècle, qui était donné aux habitants de Douarnenez. Les peines sardines. Si jamais il y a des auditeurs qui connaissent le breton, peut-être que ça fera sens. Nous, en tous les cas, on ne le connaît pas. Alors, en fait, ce nom était donné à ces ouvrières, dont la coiffe rappelait la tête de sardine. Parce que ces femmes avaient un petit bonnet de dentelle et de ruban pour tenir leurs cheveux en un chignon pointu. Indispensable, effectivement, quand on a toute la journée les mains dans la poiscaille. Pas question de se passer les mains dans les cheveux pour écarter une mèche rebelle. Et en fait, quand on voit les sardinières, elles étaient toutes debout, serrées, les unes contre les autres, devant leur étal, où étaient donc placées les sardines. Et en les voyant comme ça, ça rappelait, eh ben, ça rappelait les sardines bien serrées et rangées dans leur boîte.
4 jours après ce coup de colère, toutes les sardineries sont à l'arrêt. Des militants de la CGTU, la Confédération Générale du Travail Unitaire, d'obédience Rouge Moscou, arrivent pour organiser le mouvement et prêcher la bonne parole. Cette grève va durer plus de 6 semaines et aura un retentissement national. Elle entrera dans l'histoire comme la grève de la misère.
La grève des peines sardines.
Le maire communiste de Douarnenez, Daniel Leflanchec, les soutient et met des salles de la mairie à la disposition du mouvement. Une militante communiste, Lucie Colliard, leur dispense sur la petite place du village.
Comme on le sait, habituellement dévolue au ragot.
Leur dispense des cours d'économie, de planning familial et de culture syndicale. Elle racontera ce combat dans son livre « Une belle grève de femmes » avec comme dédicace
« À toutes les vaillantes, à toutes les audacieuses qui surent entraîner leurs camarades et faire durer la grève jusqu'à la victoire, à toutes les bonnes camarades sardinières de Douarnenez, mon plus profond hommage. »
Donc cette grève donc dure 15 jours déjà. La CGTU donne l'ordre aux marins pêcheurs de ne plus sortir en mer et ceux-ci rejoignent les ouvrières, occupent les rues jusqu'à bloquer la ville. Un convoi de conserve ne peut plus acheminer les marchandises. Les gendarmes, alors, répriment les actions des grévistes.
Oui, bah, c'est un petit peu leur rôle, hein, non ?
Le maire...
La tradition respectée, on va dire.
Le maire, Leflanchec, s'interpose. Il est alors suspendu de ses fonctions de maire. Le conflit est médiatisé nationalement. L'Humanité, le journal L'Humanité, rend compte de la charge contre les manifestantes menée par les sur ordre du ministre de l'Intérieur dans un article intitulé
« Le sang ouvrier a coulé à Douarnenez ».
La suspension du maire, Leflanchec, pour rébellion, provoque une médiatisation de la grève dans les quotidiens nationaux en dénonçant l'intransigeance provocatrice des patrons sardiniers. Devant ce conflit qui s'éternise, les maires des communes limitrophes, intéressés aussi parce qu'il y avait des sardineries chez eux, proposent leur arbitrage. C'est un échec. Le préfet tente une médiation, échec. À la 3e semaine du conflit, c'est alors le ministre du Travail lui-même qui impose un arbitrage. Une délégation des industriels et des peines sardines se rend à Paris, échec. Le ministre est effaré au point qu'en serrant la main des sardinières, il avoue « Je dois vous le dire ». Vos patrons sont des brutes et des sauvages. Les peines sardines prennent les mots du ministre pour un encouragement et la grève reprend de plus belle. Les grévistes connaissent à ce moment-là une première victoire. La patronne d'une sardinerie accepte de négocier l'augmentation des salaires et l'usine reprend son activité tout de suite. Cependant, les gros usiniers ne suivent pas le mouvement et refusent toujours toute négociation. Le mouvement de grève continue et gagne chaque jour en popularité. Une solidarité au niveau national organise des distributions alimentaires et une fête de Noël pour les enfants des grévistes.
C'est une belle solidarité. Mais il faut aussi se remettre dans le contexte historique. En fait, le Parti communiste avait une très grande audience. Il y avait beaucoup de... C'était un parti qui était fort à l'époque. Hein. Peut-être facilement, près de 30% de la population votait Parti communiste. Et donc, il y avait... D'abord, il y avait le monde ouvrier, qui était beaucoup plus important qu'aujourd'hui, bien sûr. Et il y avait donc une audience très forte. Donc, cette solidarité nationale, on la comprend, parce que d'autres secteurs ouvriers se sont reconnus dans ce combat pour faire valoir leur dignité, tout simplement, leur dignité de travailleur. Mais l'affaire va prendre un tour tragique. Ça se passe le 1er janvier 1925 à 18h. Alors il faut se rappeler que lorsqu'il y a eu la médiation tentée par le ministre, certains industriels étaient montés à Paris et ils en ont profité à ce moment-là d'approcher une officine de malfrats, de briseurs de grève, pour leur demander une intervention musclée. Et ça sera le 1er janvier, jour de l'an 1925, jour de fête, que ces briseurs de grève pénètrent dans le café où se trouve le maire, le Flanchec, en discussion au milieu des grévistes. Le ton monte. Les esprits s'échauffent. Les briseurs de grève sortent leurs armes et tirent sur lui, ainsi que sur son neveu et trois autres hommes.
Ils ont tué le Flanchec.
L'émotion est terrible. La foule saccage l'hôtel de France où étaient logés les agresseurs. Un meeting est organisé par les responsables syndicaux pour détourner les manifestants en colère qui voulaient se venger sur les maisons des industriels. Pendant une semaine, toute une semaine, tous pensaient que le Flanchec était mort. La colère était palpable partout, les rues, les places, les cafés, des rassemblements partout.
Mais 10 jours plus tard, quel soulagement! On retrouve le Flanchec au milieu de la population qui s'en est sortie avec une blessure au cou. Par contre, son neveu restera handicapé à vie.
Quelques jours après l'attentat, l'identité des commanditaires est établie. Il s'agit de deux industriels qui, contre une somme d'argent équivalent à 25 000 heures de travail des sardinières, contre cette somme d'argent, donc, ces industriels avaient approché ces trois malfrats, ces trois briseurs de grève. Alors on fait une petite avancée dans le temps, c'est-à-dire que leur procès aura lieu en octobre 1925, qui dédouaneront les industriels et les trois briseurs de grève seront acquittés.
Bon, revenons-en au feu de l'action, en ce mois de janvier. Face au mouvement qui s'étend à toute la région, ce n'est qu'une semaine plus tard que les patrons usiniers cèdent enfin aux demandes des ouvrières, soit 6 semaines et demie après le 21 novembre 1924. Ce sera alors l'accord de Douarnenez qui fixe les salaires horaires de 1 franc pour les femmes et 1 franc 50 pour les hommes, 1 franc de l'heure bien sûr, et 1 franc pour les femmes, 1 franc 50 pour les hommes, majoration de 50% au-delà de 10 heures consécutives et en cas de travail de nuit.
Là, on remarque encore une sorte d'inégalité salariale, me semble-t-il. En tous les cas, bravo aux femmes qui ont contribué à l'augmentation des salaires pour tous. Il s'agit plutôt d'une lecture contemporaine. Car à l'époque, cet aspect égalitaire n'émarge pas du tout dans les revendications des peines sardines. Il s'agissait pour elles d'obtenir un salaire décent pour améliorer leurs conditions de vie. Et cette notion d'égalité, elle n'est pas encore dans les consciences des femmes. Elle viendra plus tard.
Cependant, ce mouvement de sardinières est devenu une référence dans les luttes féministes et même au-delà, dans l'histoire des mouvements sociaux en France, sans doute avec une aura internationale.
Car ce mouvement reflète une solidarité, une sororité particulière et aussi une dignité. Ces femmes étaient très pauvres, mais vigoureuses et droites. Leur maison était bien tenue. Elles qui n'avaient à peine de quoi nourrir leur famille faisaient quand même repasser leur coiffe de travail. Le dimanche, elles allaient à la messe, mais avec la carte du Parti communiste comme marque-page dans le missel. Et les bourgeoises, quand elles les voyaient si bien mises, se sentaient privées de leur privilège d'élégance.
Ah, elle est belle celle-là. Les bourgeoises se sentaient privées de leur privilège d'élégance. Cette belle complicité était aussi issue des chansons qu'elles entonnaient durant leur travail si pénible. Ces chants, la plupart des cantiques ou des airs traditionnels, leur permettaient de supporter la fatigue.
Donc justement, après ces airs traditionnels qui permettaient de supporter la fatigue, elles chantaient dans les ateliers pour pouvoir tenir debout après 10 heures de travail. Et donc il y a un chant qu'elles ont fait et qui illustre véritablement leur combat. On va vous le faire entendre. Vous verrez, au début, il y a des bruits. Ce sont des bruits de sabots.
Ces bruits qu'on entendait la nuit, j'en ai l'émotion. Ces bruits qu'on entendait la nuit quand ces femmes traversait la ville pour rejoindre les conserveries.
Présence à Figeac, 97.7.
Le bruit de leurs pas dans la rue résonne.
Il fait encore nuit, elles sortent et frissonnent. Le bruit de leurs pas dans la rue résonne.
Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines.
Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines.
À 10 ou 12 ans, encore gamines, mais déjà pourtant elles entrent à l'usine.
À 10 ou 12 ans sont encore gamines, mais déjà pourtant elles entrent à l'usine.
Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines.
Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines.
Du matin au soir, nettoie les sardines et puis les font frire dans de grandes bassines.
Du matin au soir, nettoie les sardines et puis les font frire dans de grandes bassines.
Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines.
Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines.
Tant qu'il y a du poisson, il faut bien s'y faire. Il faut travailler, il n'y a pas d'horaire.
Tant qu'il y a du poisson, il faut bien s'y faire. Il faut travailler, il n'y a pas d'horaire.
Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines.
Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines.
À bout de fatigue pour pas s'endormir, elles chantent en chœur, il faut bien tenir.
À bout de fatigue, il faut pas dormir, elles chantent en chœur, il faut bien tenir.
Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines.
Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines.
Ma
malgré leur travail, n'ont guère de salaire. Et bien trop souvent vivent dans la misère.
Malgré leur travail, n'ont guère de salaire. Et bien trop souvent vivent dans la misère.
Écoutez, elles brûlent leurs sabots. Voilà les ouvrières d'usine. Écoutez, elles brûlent leurs sabots. Voilà qu'arrivent les peines sardines.
Écoutez, elles brûlent leurs sabots. Voilà les ouvrières d'usine. Écoutez, elles brûlent leurs sabots. Voilà qu'arrivent les peines sardines.
Un jour tout ensemble ces femmes se lèvent, à plusieurs milliers se mettent en grève.
Un jour tout ensemble ces femmes se lèvent, à plusieurs milliers se mettent en grève.
Écoutez, elles brûlent leurs sabots, écoutez gronder leur colère. Écoutez, elles brûlent leurs sabots, c'est la grève des sardinières.
Écoutez, elles brûlent leurs sabots, écoutez gronder leur colère. Écoutez, elles brûlent leurs sabots, c'est la grève des sardinières.
Dans la ville rouge on est solidaire, et de leur victoire les femmes sont fières.
Dans la ville rouge on est solidaire, et de leur victoire les femmes sont fières.
Écoutez, elles brûlent leurs sabots, écoutez gronder leur colère. Écoutez, elles brûlent leurs sabots, c'est la grève des sardinières.
Écoutez, elles brûlent leurs sabots, écoutez gronder leur colère. Écoutez, elles brûlent leurs sabots, c'est la grève des sardinières.
À Douarnenez, et depuis ce temps, rien ne sera plus jamais comme avant.
À Douarnenez, et depuis ce temps, rien ne sera plus jamais comme avant.
Écoutez, elles brûlent leurs sabots, écoutez gronder leur colère. Écoutez, elles brûlent leurs sabots, c'est la victoire des sardinières.
Écoutez, elles brûlent leurs sabots, écoutez gronder leur colère. Écoutez, elles brûlent leurs sabots, c'est la victoire des sardinières.
Certains chants étaient moqueurs ou grivois.
Voire revendicatifs. Hein. Et pendant leur grève, elles n'ont pas hésité, durant les processions, sur l'air des cantiques, de modifier des paroles. Et même, dit-on certains, à chanter l'International.
Ici, il nous faut évoquer Joséphine Pancallet.
1886-1972, née à Douarnenez.
Joséphine était sardinière, elle avait participé à la grève des peines sardines, elle était déléguée de la CGTU, trésorière du syndicat des métaux à Douarnenez. Il faut savoir qu'à l'époque, non seulement on mettait les sardines en boîte, mais on fabriquait les boîtes, donc il y avait un syndicat des métaux. Lors des élections municipales de 1925, le Parti communiste a pour consigne, toujours liaison avec Moscou, de présenter plusieurs candidates en France.
Mais à Douarnenez, aucune femme ne souhaite se présenter. La pression masculine est trop forte.
Joséphine Pancallet, elle, est veuve, et donc libre de ses décisions.
Donc, Joséphine Pancallet est la seule qui ose se présenter. Elle est quatrième sur la liste et elle est élue avec toute la liste menée par Le Flanchec, une liste communiste donc, devenant ainsi l'une des 10 premières femmes élues dans un conseil municipal.
Mais faute de précision dans la loi électorale, des femmes peuvent être inscrites sur les listes des candidatures dont la validité n'est vérifiée qu'après l'élection.
Et c'est après avoir participé à plusieurs séances du conseil municipal de Douarnenez que le Conseil d'État, en novembre 1925, invalide son élection au motif... Pour quel motif? Au motif qu'elle est une femme, sans droit de vote.
Sans véritable émotion de la part du Parti communiste, qui avait pourtant soutenu sa candidature, Joséphine revient à sa vie d'ouvrière anonyme, en gardant avec amertume ses convictions politiques, affirmant jusqu'à sa mort en 1972 le refus d'aller voter et en persuadant ses enfants d'en faire autant.
Baba Yaga. Baba Yaga.
Il faut aller du côté de la culture slave pour rencontrer la Baba Yaga.
Effectivement, c'est une figure féminine d'origine russe, que l'on trouve dans les contes pour enfants. Tantôt sorcières, tantôt pourvoyeuses de bienfaits, mais toujours, toujours, toujours vieilles.
Elle se joue des normes établies. Elle est avant tout un symbole de liberté et de transformation.
Alors, les Baba Gaga, aujourd'hui en France ?
En 2024, l'espérance de vie pour les femmes est de 85,6 ans, tandis que celle des hommes est de 80 ans.
Pas d'égalité, alors ?
Non. Il s'agit d'une inégalité biologique. Mais quand on sait que les hommes sont plus âgés dans les couples que les femmes, ça veut dire qu'à la fin, ce n'est pas 5,6 ans, c'est 10 ans de solitude.
Effectivement. C'est cette réalité qui est pénible. Non seulement les femmes vivent plus longtemps, mais souvent elles sont confrontées à la solitude depuis de nombreuses années, puisque les hommes meurent avant nous. Enfin, pas toujours, hein, mais visiblement, au niveau des statistiques, c'est ce qui se passe.
Veuve, divorcée ou éternelle célibataire par choix, lorsque sonne l'heure de la retraite, le gouffre des années à vivre seule angoisse. Il s'agit alors de penser à une autre manière de vivre.
À une autre manière de vieillir.
Les Baba Yaga sont vieilles, oui, mais gâteuses, non.
Elles revendiquent la beauté d'exister à tout âge. Donc on est loin d'être gâteux, là. Hein. Un défi pour notre société contemporaine qui n'aspire qu'à rester jeune à n'importe quel prix.
Ambition de changer le regard sur le vieillissement, refuser la pensée lénifiante des plus jeunes, persuadés de savoir ce qu'il convient à leurs aînés.
Ce sera donc avec la maison des Baba Yaga, création originale de résidence pour femmes âgées, selon 4 critères simples et clairs.
Autogestion.
Autogestion, donc pas de personnel d'accueil, pas de comptable, des parties communes entretenues par toutes, et la communauté assume et partage toutes les tâches.
Solidarité.
Une caisse commune pour les dépenses extra. Une veille de tour de garde assurée jour et nuit par les Baba Yaga elles-mêmes. L'entraide en cas de petits pépins de santé. Et surtout, la convivialité et l'amitié de ces femmes que parfois seul le temps a rapprochées.
Citoyenneté.
L'engagement féministe, bien sûr, les combats sociétaux, politiques. La maison est aussi un lieu de parole pour toutes et ouvert à l'extérieur. Les Baba Yaga refusent d'être cantonnées au statut de demi-femme que nos structures patriarcales leur envoient trop souvent. Elles ont gagné, elles le disent. Elles ont gagné leur droit à ne plus être productrices et reproductrices. Elles vivent l'utopie du temps choisi.
Écologie.
Sans se revendiquer spécialement de l'écoféminisme, la préservation de la planète leur tient à cœur. Le bâtiment qui les accueille a d'ailleurs été pensé autour des contraintes environnementales. Et dans leur petit potager en pleine ville, le jardinage est aussi une affaire collective.
La première maison Baba Yaga a été pensée par une militante féministe, Thérèse Claire.
1927, elle naît à Paris. Elle meurt à Montreuil en 2016.
C'est après le décès de sa mère, en 95, dans un EHPAD, qu'elle a réussi à ouvrir sa maison de Baba Yaga après bien des difficultés financières et administratives. En 2013, à Montreuil.
Montreuil, dans la banlieue parisienne. La folle ambition de Thérèse Claire est de créer un havre féministe, une anti-maison de retraite.
La maison est située en pleine ville, tournée vers la vie et les autres. Elle permet aux femmes qui l'habitent de se prendre en charge et s'entraider pour bien vieillir.
Le bâtiment de 6 étages compte 21 logements pour des femmes de plus de 60 ans. Les parties communes accueillent des activités ouvertes aux résidentes.
Dans leur petit logement, elles sont libres de leur mouvement, de sortir lorsqu'elles le souhaitent, de recevoir ou pas, de se distraire ou rester chez elles, d'accueillir pour quelques jours une amie ou une cousine ou un parent.
Ou un tendre compagnon pour un soir. Car si certaines de ces féministes de terrain, l'abstinence se veut un choix délibéré, elle n'est pas non plus obligatoire pour toutes. Elles sont dans le monde, dans l'action, et résolues à vivre, vieillir et mourir ensemble, en toute autonomie.
Ça ne vous rappelle rien ?
Mais oui, le béguinage. Ce béguinage contemporain offre une solution bien adaptée au problème du vieillissement de la population européenne. On en trouve depuis quelques années en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique et dans le nord de la France. Tiens, c'est intéressant de noter qu'il s'agit des mêmes lieux que le béguinage du XIIIe siècle. Ces magnifiques bâtisses servant à accueillir aujourd'hui des personnes âgées. Il n'y a pourtant que deux maisons Baba Yaga en France. Donc celle de Montreuil, dont on vient de vous parler, et une autre à Perpignan. Alors, quand pour une maison Baba Yaga à Figeac? L'appel est lancé. Femen.
Le 9 novembre 1989, c'est la chute du mur de Berlin.
Ébranlement dans le monde de l'Est. Fin de la guerre froide.
Le 24 août 1991, c'est la déclaration d'indépendance de l'Ukraine.
26 décembre 1991, chute de l'URSS et démantèlement de l'Empire soviétique.
La société ukrainienne est prise d'une fièvre démocratique qui débouchera en 2004 sur la Révolution orange. En même temps, le pays est l'objet d'une invasion par l'économie de marché et son lot de précarité, d'injustice, d'humiliation et de toutes sortes de perversions. À la suite de quoi? Sais-tu comment on appellera l'Ukraine?
Non.
La Thaïlande de l'Europe. L'exploitation de l'industrie du sexe, la prostitution, le commerce de femmes par les agences matrimoniales de l'Ouest.
Pendant ce temps-là, dans les plaines glacées de la Podolie, ne vous inquiétez pas, je vais vous dire où c'est la Podolie, ça se trouve au sud-ouest de Kiev. Pendant ce temps-là se forme donc un groupe de jeunes femmes autour des écrits socialistes et féministes, notamment de Clara Zetkin. Alors Clara Zetkin, je vous le rappelle, 1857-1933, c'est une femme allemande, journaliste, femme politique. Et figurez-vous que c'est à elle que l'on doit la Journée internationale des droits des femmes. C'est le moment ou jamais de le rappeler. Et donc ces jeunes filles-là, sur ces écrits donc de Clara Zetkin et aussi d'Auguste Bebel, alors lui 1840-1913, c'est la figure majeure donc de la social-démocratie d'Allemagne, notamment auteur du célèbre « La femme et le socialisme », un best-seller à l'époque qui justement mettait en avant l'exigence de l'égalité entre hommes et femmes.
Au début, en 2004, elles sont trois. Anna Hutzol, 19 ans, Oksana Shashko, 16 ans, et Sacha Shvechenko, 15 ans. Le groupe comptera jusqu'à une centaine de femmes et nous sommes à Khmelnytsky, en Podolie.
En 2008, 4 ans plus tard donc, un drame justement dans l'hôpital de leur ville
de Khmelnytsky.
Je te laisse le dire. Donc, dans cet hôpital, qu'est-ce qui se passe-t-il? Eh bien, 4 femmes meurent, faute de soins appropriés. Elles sont en colère. Elles manifestent alors dans le centre-ville avec des posters, des draps et du sang. Leur action est couverte par les journalistes et le directeur de l'hôpital sera licencié. Belle victoire.
Elles réalisent alors le pouvoir de leur action révolutionnaire, le pouvoir de faire changer les choses. Elles partent pour Kiev, où l'audience médiatique est plus grande. Ce sera alors la création d'un nouveau mouvement, les Femmes. Sais-tu ce que cela veut dire, Femmes?
Bah, Femmes, femme, quoi.
Ah, pas du tout. Femmes, ça veut dire la cuisse. Ça vient du latin, qui a fait fémur. Et donc, elle s'appelle cuisse par métonymie pour désigner les organes sexuels des femmes. Elle manifeste en août en 2008 déguisée en prostituée pour dénoncer l'importance de la prostitution avec la phrase « L'Ukraine n'est pas un bordel ». En août 2009, lors de la célébration de l'indépendance, Oksana invente ce qui deviendra le signe distinctif des Femmes. Oksana, c'est l'artiste de la bande. Elle quitte son soutien-gorge et elle proteste seins nus, topless, comme on dit maintenant, avec des inscriptions comme des graffitis sur la poitrine, symbolisant les conditions des femmes ukrainiennes pauvres, vulnérables, asservies par la propriété publique de leur corps. Avec, je rajoute, une couronne de fleurs sur la tête, symbole de la jeune fille non mariée, donc libre. Donc une Femmes, c'est topless et couronne de fleurs. Le corps nu des jeunes femmes n'a pas à être séduisant. Au contraire, par leur attitude, leur visage sévère, leur cri, leur inscription sur la poitrine, il est menaçant et fragile en face de la brutalité masculine et policière.
Ah, on peut dire alors comme le corps nu du Christ, nu et non obscène ?
Nu et non obscène. En décembre, en 2011, la fille d'un colonel de l'armée qui était journaliste, qui étudiait le journalisme, Ina Shevchenko, rejoint le groupe. Lors d'une manifestation à Minsk, en Biélorussie, devant le siège du KGB, pour demander la libération des prisonniers politiques contre la dictature du président biélorusse Loukachenko, elles sont alors enlevées par la police, emmenées en pleine forêt, torturées, mises à nu, aspergées d'essence, sous les coups et les colibés des soldats, qui arborent devant elles leurs briquets allumés, avant de les abandonner loin de tout.
Quel traitement ! En juin 2012, vous vous souvenez, c'était l'Euro de football. Les Femmes acquièrent une renommée mondiale en apparaissant dans le stade olympique de Kiev pour protester contre la prostitution organisée lors de cette manifestation sportive. Toujours en 2012, ce juin 2012, les Femmes exigent la libération des Pussy Riot.
Les Pussy Riot, c'est un groupe de punk féministes de Moscou qui, lors d'un concert organisé dans la cathédrale de Moscou, en signe de protestation contre Vladimir Poutine, seront arrêtés à la 41e seconde de leur spectacle.
Oui, il faut croire qu'ils appréciaient peut-être pas tellement le punk rock. Hein? Bon, enfin. Donc, les Femmes décident d'une action spectaculaire en leur soutien. Ina abattra la tronçonneuse une croix orthodoxe de plus de 4 mètres de hauteur en plein centre de Kiev.
En février 2013, à Notre-Dame de Paris, seins nus et couverts de slogans hostiles au pape, elles sont vite interpellées par la police française.
En fait, à chaque déplacement de Vladimir Poutine à l'étranger, les Femmes sont là pour dénoncer son autoritarisme et son ingérence dans la vie politique de l'Ukraine. Bon, la suite des événements leur donne raison quand même. En mai 2013, lors de l'inauguration de la grande foire industrielle du monde à Hanovre en Allemagne, lors de la rencontre donc entre Angela Merkel et Vladimir Poutine, elle continue en octobre 2014 à Milan contre la venue de Vladimir Poutine au sommet Asie-Europe qui rassemblera une cinquantaine de chefs d'État.
Nous pensons qu'accueillir Poutine, lui serrer la main, c'est ignorer la torture, les assassinats et la guerre en Ukraine qui ont été lancés et soutenus par Poutine.
Dira l'une d'elles avant de disparaître dans le métro pourchassée par la police. Alors à présent, nous aimerions donc reprendre le parcours des trois fondatrices du mouvement Femen, donc fondé en 2004, et de celle qui les a rejointes en 2011. Anna Uskol, née en 1980. Utsol. Ah, merci. Heureusement que tu as appris l'ukrainien, finalement. Donc, elle est née à Mourmansk. Sociologue, économiste, elle n'a de cesse de dénoncer le tourisme sexuel et le proxénétisme. Elle est considérée comme la tête pensante des femmes.
Sacha Shevchenko, née en 88 à Khmelnytsky, en Ukraine, après avoir participé à toutes les manifestations, elle quittera l'Ukraine pour des raisons de sécurité et s'installe à Paris en août 2013 avec d'autres membres des Femen. En octobre 2014, elle épouse le célèbre photographe russe Dimitri Kostyukov, qui a longtemps soutenu les Femen dans l'ombre de ce groupe.
Oksana Chatsko, née en 1987, toujours dans la même ville que tu sais bien dire, Luc.
À Khmelnytsky.
Voilà, en Ukraine. Est une artiste. Une artiste spécialisée dans la peinture d'icônes. Dès l'âge de 8 ans, elle sera admise dans une école pour adultes, dont elle sortira diplômée. Elle avait eu le droit d'aller peindre dans des églises à des endroits interdits aux femmes parce qu'elle était encore une enfant. Ses œuvres sont exposées en Ukraine et aux États-Unis. Menacée dans son pays d'origine, évidemment, Oksana demande l'asile politique en France en 2013. Elle est accueillie au Lavoir Moderne, théâtre alternatif du quartier de la Goutte d'Or, tenu par Apollonia Sokol, dont la quinzaine de Féminin Pluriel de l'année dernière, vous devez vous en souvenir, avait diffusé en avant-première le film Apollonia, Apollonia.
Enfin, la quatrième, Ina, née en 90 à Kherson, en Ukraine, qui avait rejoint les Femen en 2011. Elle arrive en France en août 2012 avec un visa touristique, alors qu'elle fait l'objet d'une enquête par la police russe pour avoir, vous le savez, tronçonné une croix orthodoxe en soutien au Pussy Riot. Elle obtiendra l'asile politique en avril 2013, et elle crée la branche française des Femen et organise le développement des Femen à l'international.
Sous l'impulsion de Caroline Forest, les Femen deviennent une institution, un mouvement vertical, où la figure d'Ina prend une place prépondérante avec sa cour, mélange de séduction et de crainte, comme une petite armée avec entraînement militaire. Ina, en tant que leader du mouvement Femen à l'international, participe à des conférences et des débats dans les universités d'Oxford, Cambridge, Sciences Po Strasbourg. En avril 2017, Ina reçoit le prix international de la laïcité organisé par le comité Laïcité République. Elle tient une tribune dans le magazine Elle et depuis 2020, elle contribue régulièrement à Charlie Hebdo.
L'évolution donnée par Ina au mouvement des Femen entraîne de profondes tensions entre les militantes. Face à cette dérive du pouvoir pyramidal et autoritaire mise en place par Ina, Oksana et Sacha sont vite en désaccord avec elle. Au contraire, Oksana et Sacha défendent un fonctionnement ouvert, un mouvement horizontal et égalitaire, un mouvement communiste noble, qui renvoie à une communion de pensée et d'action, à un partage des risques et des ressources.
Femen, en fait, c'est une idée. C'est la lutte contre le patriarcat. Si une femme, n'importe où, peut-être à Figeac, hein, dans n'importe quel pays, adhère à leurs idées et à leurs méthodes, elle peut se déclarer Femen. Une femme toute nue, avec seulement une pancarte et fragile, face à la violence de la police. C'est à l'image de la démocratie en Ukraine.
Sacha et Oksana seront écartées du mouvement par Ina. Par la suite, Oksana se consacrera exclusivement à la peinture. En 2016, une première exposition à Paris, ses œuvres s'inspirant d'icônes religieuses, articulées autour des thèmes de l'Apocalypse, avec une dimension politique. Elle intègre les Beaux-Arts de Paris en 2017. Sa dernière exposition a lieu à Paris en juin 2018. Ses icônes, dont un triptyque de croix orthodoxe se transformant en Kalachnikov.
Un mois plus tard, donc juillet 2018, Oksana se suicide à Paris à l'âge de 31 ans.
Dans l'histoire du féminisme, il y aura un avant et un après Femen. Aujourd'hui, même l'Ukraine communique sur l'image des Femen. C'est un argument de vente dans la publicité, dans le commerce, dans l'art.
Inconsciemment, le patriarcat est déstabilisé par le surgissement des Femen. Cela ne tient pas seulement au fait qu'elles ont les seins nus. C'est aussi que le surgissement relève du masculin. Ce sont les hommes qui surgissent. Ce sont des chasseurs, des guerriers. Le surgissement, c'est masculin. Et là, ce sont des femmes surgissantes. Et c'est ça qui est révolutionnaire.
Les Femen sont toujours dans l'actualité. Ce 28 février dernier, devant l'établissement catholique de Bétaram, trois femmes enduites de peinture rouge pour marquer avec leur corps sur les murs de l'établissement ces crimes commis en toute impunité, tous ces corps d'enfants marqués au fer rouge.
Ces lectures, faites cette année dans le cadre donc de Féminin Pluriel, sont dédiées à la mémoire d'Oksana.